Bonjour, ouverture en ce moment même à Londres de la session extraordinaire du Parlement britannique convoquée par le Premier ministre David Cameron pour parler des émeutes qui secouent le pays depuis le week-end dernier alors qu'un calme précaire semble être revenu la nuit dernière dans le pays. Nous serons en direct dans quelques instants avec Daniel Coulon. Toujours au menu de ce journal, la fronde des hôpitaux universitaires de Genève qui refusent de donner aux assureurs les dossiers de leurs patients comme le prévoit le projet d'accord conclu entre l'organisation fêtière des hôpitaux et Santé Suisse, un document censé entrer en vigueur l'an prochain. Nous parlerons aussi du bon vieux courrier papier qui tient bon malgré la concurrence de son rival électronique. Une agence de placement fixe et temporaire créée par des jeunes pour des jeunes, c'est le concept de l'entreprise Cusmic fondée il y a 4 ans par deux anciens diplômés d'HEC. Avec un fichier de 15 000 candidats et un solide réseau de partenaires professionnels, Cusmic ne connaît pas la crise. Nous recevrons l'un de ses fondateurs, Michaelsen, à la fin de ce journal. Soleil et douceur sur le bassin lémanique et le Valais, nuages tenaces du côté du Jura, de la Joie et du nord du plateau, c'est en substance le menu météo du jour. Le mercure affichera 24 à 26 degrés en pleine avec un peu plus de vent sur le plateau. Soleil et chaleur demain et samedi, retour de la pluie dimanche après-midi, nous dira Carole Dubuis. Le Parlement britannique se réunit donc en session extraordinaire aujourd'hui après les violentes émeutes qui ont secoué le pays 4 jours durant et alors qu'un calme relatif semblait être de retour la nuit dernière, Daniel Coulon.
En effet, pour la cette cinquième journée d'émeute n'a pas eu lieu. Et pour la troisième journée consécutive, ce matin, David Cameron a tenu une réunion de crise avec les responsables de la sécurité publique. Et il va s'adresser d'ici quelques minutes au Parlement qu'il a dû rappeler de vacances pour la deuxième fois en un mois. Il y a quelques semaines, c'était pour le scandale des écoutes téléphoniques du groupe de presse Murdoch. Et c'est seulement la 25e fois en 50 ans que le Parlement est ainsi rappelé en urgence. Et on n'avait pas vu le Parlement rappeler deux fois en un mois depuis 9 ans. Alors le Premier ministre devrait rendre compte de cette réunion d'urgence qu'il a tenue ce matin et annoncer des mesures financières pour aider les victimes des pillages. Le débat va durer toute la journée. David Cameron joue gros parce qu'on sait que le plus gros problème pour un gouvernement, ici comme ailleurs, c'est de ne plus avoir le contrôle de ce qui se passe dans la rue. Il pleut aujourd'hui à Londres, comme il pleuvait hier soir à Manchester. Et avec le déploiement massif de police, cette pluie providentielle est une pluie bénie pour David Cameron. Est-ce que l'opposition va accuser le gouvernement d'être responsable de ces violences à cause de ces réductions budgétaires dans les programmes sociaux? Ce n'est pas en tout cas le sentiment de la majorité de la population britannique qui pense, comme David Cameron, que ce qui se passe, c'est d'abord un problème de voyoucratie, de défaillance familiale. Et donc le débat risque d'être très animé.
Daniel Coulon, en direct de Londres. Si le calme est momentanément revenu dans les rues de Londres, la population locale est encore sous le choc. Notre envoyé spécial Virginie Mater a recueilli le témoignage de Garnett qui s'est retrouvé à la rue avec sa femme et son fils parce que le magasin situé au rez-de-chaussée de son immeuble a été incendié par des pillards. Il ne leur trouve aucune excuse, même si la situation économique est difficile. Écoutez.
Ça n'a rien à voir avec l'économie, ça n'a rien à voir avec la mort par balle d'un jeune. C'est de la pure rapacité, il n'y a pas d'excuse pour cela, c'est simplement dégoûtant. Mais c'est la société aujourd'hui, les gosses font ce qu'ils veulent. L'excuse des coupes budgétaires... Les gens doivent de toute façon vivre avec. Tant que vous travaillez, que vous économisez quand vous pouvez, vous devriez vous en sortir dans n'importe quelle économie. Vu ainsi, les coupes budgétaires ne nous affectent pas jusqu'à aller manifester, parce qu'on a toujours travaillé. Tous les gens qui vivent dans ces appartements ont travaillé toute leur vie pour payer leur loyer, leur traite. Donc si des coupes doivent être faites, que le gouvernement les fasse, plutôt que le pays parte en faillite. Il y a des problèmes en Grèce, en Irlande, on parle maintenant de problèmes en Italie. Si le pays ne prend pas les bonnes mesures, le pays part en faillite.
Et les citoyens britanniques n'ont pas attendu les réactions du monde politique pour lutter contre les émeutiers, mécontents de l'intervention policière des premiers jours. Des groupes d'autodéfense se sont formés dans certains quartiers saccagés. Résultat, les ventes de matraques et autres battes de baseball explosent, Estelle Braconnier.
Une augmentation flagrante sur les sites de vente en ligne sur Internet depuis le début des émeutes. Plus 50% environ sur les matraques, plus 14% sur les battes de baseball modèle 60 cm et près de plus 6% sur les battes de baseball en aluminium. Et l'utilisation de ces accessoires pour se défendre ne fait aucun doute. Un internaute laisse ainsi un commentaire sans équivoque. Je cite, bien sûr, « Cette batte est parfaitement équilibrée et conviendra à tout Britannique souhaitant protéger ses biens. Grâce à sa poignée ergonomique, il sera très facile de briser des rotules, crânes ou tout autre type d'os. » L'autodéfense s'organise donc, mais pas sans arrière-pensée. Et c'est là peut-être le prochain combat de rue que devront livrer les autorités. Le gouvernement redoute en effet de voir des militants d'extrême droite infiltrer les groupes dans les quartiers. Des représentants de cette mouvance ont d'ailleurs déjà annoncé que devant l'incapacité de la police, ils allaient mettre un terme aux émeutes.
Les hôpitaux suisses pourraient refuser de transmettre automatiquement les dossiers et les diagnostics de leurs patients aux assurances, comme le prévoit le projet d'accord conclu entre l'organisation fêtière des hôpitaux et Santé Suisse, censé entrer en vigueur l'an prochain. Le texte était mis en consultation jusqu'à aujourd'hui et les hôpitaux universitaires de Genève ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils y étaient opposés au nom de la protection des données, Mathieu Cuplin.
Le directeur des HUG, Bernard Gruson, tire à boulet rouge dans la tribune de Genève contre l'accord négocié entre le réseau des hôpitaux suisses H+, et Santé Suisse, la fêtière des caisses maladies. Pour lui, pas question de donner aux assurances un accès total et automatique aux données des patients, diagnostic compris, car cela touche à une question fondamentale sur le plan de l'éthique. Les HUG préviennent, ils s'en tiendront à une transmission sur demande au seul médecin conseil des assurances et non directement à leur administration. Les HUG se disent même prêt à quitter le réseau des hôpitaux si l'accord est entériné. Alors comment réagit H+, face à cette menace? Son président Charles Favre nous l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un hôpital qui va dicter notre position, nous suivrons l'avis de la majorité de nos membres. H+, donnera le résultat de la consultation la semaine prochaine. D'après nos informations, l'accord sur la transmission des données est soutenu par les hôpitaux universitaires alémaniques, mais en Suisse romande, le CHUV partage assez largement les doutes formulés à Genève. Alors l'accord pourra-t-il entrer en vigueur l'an prochain dans le cadre du nouveau système de financement des hôpitaux? C'est au final la Confédération qui pourrait être amenée à jouer les arbitres.
Les banques suisses vont-elles tenter de bloquer les fonds allemands non déclarés pour éviter qu'ils soient placés ailleurs à l'étranger? La question se pose au lendemain de la conclusion de l'accord fiscal entre Berne et Berlin. Mi-juillet déjà, l'ombudsman des banques avait indiqué au journal Le Temps que 5 clients s'étaient plaints de ne plus avoir de libre accès à leurs avoirs. Des cas qui pourraient bien se multiplier, Pascal Jeannerat.
Et pour 5 cas en tout cas, 4 semblent avoir été réglés à l'amiable, explique l'ombudsman des banques, Hans-Peter Henny, qui précise également que dans le 5e cas, eh bien, le client s'est annoncé au fisc allemand.
C'est une cliente concrète qui a décidé de s'annoncer aux autorités allemandes et déclarer ses valeurs, et puis c'est évident, c'est réglé.
Mais avec l'étape du paraf de l'accord hier, les banques vont-elles multiplier les blocages pour mettre en réserve les 2 milliards de garanties qu'elles se sont engagées à verser ou tout simplement pour, vous l'avez dit, empêcher leurs clients de fuir vers un paradis fiscal étranger? Pas impossible, explique Hans-Peter Henny.
Je suis pas inquiet, mais je peux bien m'imaginer parce que si on regarde l'accord qui a été fait, il prévoit que les banques payent pour les impôts de leurs clients et c'est évident qu'ils vont débiter les clients concernés.
Donc ça veut dire que les banques pourraient déjà bloquer une partie des avoirs pour prévoir le paiement de ces sommes?
Ça ne me surprendrait pas si ça se produirait, non.
On a quand même de la peine à imaginer que tant que l'accord avec l'Allemagne n'est pas ratifié, il puisse autoriser les banques à bloquer déjà des sommes d'impôts.
Là, on est dans le domaine juridique et vraiment, je ne peux pas juger au moment ce qui est légal et ce qui ne l'est pas.
Du côté de l'Association suisse des banquiers, un porte-parole indique que la seule restriction possible est le retrait de sommes importantes en cash, mais qu'en termes de transfert de fonds, la liberté des clients doit être totale, sous réserve évidemment de tomber sous le coup de la loi du blanchiment sur le blanchiment d'argent ou dans les cas de potentat, mais aucun blocage ni partiel ni total de fonds allemands n'est envisageable, selon l'ASB, en vertu de l'accord Suisse-Allemagne.
Économie encore, les bourses européennes sont encore fébriles aujourd'hui alors que Swisscom annonçait ce matin un bénéfice net en hausse de plus de 10% au premier semestre. Dominique Chauffat.
Une augmentation du bénéfice net, c'est vrai, mais aussi une diminution du chiffre d'affaires et c'est ce qui est sanctionné en bourse aujourd'hui. Swisscom a vu ses ventes baisser de 3,8% pour se fixer à 5,72 milliards de francs. Et pourtant, l'opérateur de télécommunications a accru sa clientèle, il a augmenté le nombre de raccordements et le volume, non seulement au niveau de la téléphonie fixe et mobile, mais aussi en ce qui concerne Internet et la télévision. Le gros problème de Swisscom, c'est l'érosion des prix qui se confirme sur le marché suisse. Les clients payent moins grâce à des offres combinées, grâce à de nouveaux modèles tarifaires. C'est évidemment positif pour les consommateurs, mais ça l'est nettement moins pour l'entreprise qui évalue ce manque à gagner à près de 300 millions de francs. Et l'autre grosse épine plantée dans le pied de Swisscom, eh bien c'est la gestion de Fastweb. Swisscom avait déjà dû provisionner au début de l'année dernière les frais d'un compte au fiscal de sa filiale italienne. Le souci en ce début d'année, c'est le recul de plus de 6% du chiffre d'affaires transalpin. Un recul qui s'explique notamment par un contrôle renforcé de la solvabilité des nouveaux clients en Italie.
Et comment se comportent les bourses européennes à la mi-journée, Dominique ?
Alors les bourses sont restées très longtemps dans le positif. Le SMI est toujours dans le vert avec une hausse de 1,4% environ parce que tout bouge très rapidement, signe d'une extrême volatilité, beaucoup d'inquiétudes. Paris est passé par exemple à nouveau dans le rouge, mais au vu des mouvements de panique ambiants, la journée est loin d'être terminée. Quant au franc, il est un tout petit peu remonté. On en est à 75 centimes contre le dollar, 1,05 francs contre l'euro.
Dominique Chauffat de notre rubrique économique. Qu'on se le dise, la traditionnelle lettre papier n'est pas encore morte. Une enquête menée par La Poste auprès de ses clients privés indique ce matin qu'ils sont 70% à souhaiter recevoir leurs factures ou leurs décomptes de salaire dans leur boîte aux lettres. N'en déplaise aux amateurs de courrier électronique, le support papier a encore de beaux jours devant lui. Nous avons demandé au patron de La Poste, Jörg Bourer, de nous expliquer les raisons de cet attachement. Écoutez.
Les avantages de la lettre sont sa plus grande efficacité, sa valeur supérieure, et sa plus grande fiabilité et les clients nous ont dit son archivage est plus simple.
Pour rappel, une facture, un rappel justement de paiement, ça a plus de valeur, plus de poids quand ça arrive comme ça par courrier que par un email sur un ordinateur.
Les clients ont beaucoup plus de confiance dans les lettres que dans les emails concernant les factures.
Le constat se vérifie aussi pour la publicité. Par la poste, elle est davantage lue et reçue que par email. C'est une question peut-être aussi de génération.
Non, ce n'est pas une question de génération. C'est un peu surprenant que les jeunes et les plus âgés ont les mêmes avis.
Les entreprises incitent généralement leurs clients à préférer les factures par email plutôt que les factures par courrier pour des questions notamment d'écologie. Visiblement, c'est un argument qui ne séduit pas les utilisateurs.
Non, ils ont plus de confiance dans les lettres pour les facteurs. Ils nous disent que les clients payent beaucoup plus vite s'ils reçoivent une lettre qu'un email.
Vous constatez aussi, et c'est nouveau, que le nombre d'envois progresse un peu après des années de diminution.
Nous avons constaté une petite élevée de la volume des lettres adressées le premier trimestre de cette année. C'est aussi grâce à la conjoncture que nous avons en Suisse.
Conséquence de cette étude, La Poste va investir peut-être davantage encore dans l'acheminement du courrier.
C'est très important pour La Poste d'investir dans la qualité des prestations. Nous voulons progresser ces investissements dans la qualité, mais aussi dans les processus pour être très attractif pour nos clients.
Une dernière question qui s'impose en pleine période estivale. Qu'en est-il de la carte postale ? On en envoie, on en reçoit toujours autant ou c'est en baisse ?
C'est aussi un peu en baisse, mais ils ont des autres qualités. C'est pourquoi les cartes postales ont aussi une attractivité pour les clients.
Le directeur de la Poste, Jürg Bourer, invité par Roger Guignard. Les enseignants de l'école enfantine sont surchargés de travail. Constat dressé ce matin par le directeur de l'instruction publique du canton de Berne, Bernard Poulvert, lors de sa conférence de presse de rentrée scolaire. Il propose pour y remédier d'introduire un enseignement en tandem dans des classes particulièrement difficiles. Maurice Doucas.
D'abord un constat, les enseignants d'école enfantine sont de plus en plus nombreux à atteindre leurs limites psychiques et physiques. Les classes sont de plus en plus hétérogènes, les écarts de développement et même les retards de développement se sont accrus au cours de ces dernières années dans les classes enfantines bernoises. Les enseignants bernois observent une régression dans des domaines du langage, de la motricité ou du développement émotionnel et social. Alors pour aider ces enseignants, l'exécutif cantonal leur met à disposition quelques 12 500 leçons supplémentaires. Ces leçons seront employées de façon ciblée et déterminée par les inspecteurs scolaires. L'enseignement pourra par exemple être dispensé en tandem dans une centaine de classes durant un trimestre. On veut également instaurer un effectif de 18 à 20 enfants au maximum. Ces mesures entreront en vigueur dès cette rentrée scolaire qui débute ce lundi dans le canton de Berne. Quant au coût, il s'élève à environ 1 million de francs.
Maurice Doucas en direct de nos studios de Berne.
Le 12-30, David Racana.
Direction Locarno, où le cinéma se plaît à explorer les grands espaces. Cette année, plusieurs films en compétition confrontent l'homme à la nature, qu'elle soit violente ou complice. C'est le cas de Loneliest Planet, un film russe tourné dans les montagnes de Géorgie avec un certain Gaël Garcia Bernal en tête d'affiche. Michel Masseret.
Après les plages mexicaines de mangroves, les côtes chiliennes dévastées de l'année du tigre, Locarno nous invite à un trekking dans les contreforts du Caucase. The Loneliest Planet suit un couple de touristes américains qui s'offre une grande randonnée avant son mariage. Pour ce faire, le couple décide d'engager un guide. Le trio se met en marche dans des paysages qui, au fil des jours, deviennent de plus en plus amples et majestueux. Les deux amants progressivement apprivoisent le guide, un homme rude et taciturne dont l'humour froid s'exprime lors de bivouacs où les randonneurs découvrent l'alcool local.
So I say toast to you and for everything you teach us and
for life.
Life.
Yeah.
Yes.
Life is good.
Yes.
But good life is better.
Yeah. Gamarjos.
La vie est belle, mais la belle vie c'est mieux encore, confie le guide. Entre les trois personnages, en tout cas, cette vie est à deux doigts de basculer lors d'une rencontre inopinée avec des paysans. L'Américain va alors manquer de courage. Alors que la nature se fait toujours plus imposante, l'atmosphère dans le couple se délite, les silences se font pesants. Cette histoire simple tient en quelques lignes et pourtant la réalisatrice russe Julia Loktev parvient à lui donner une ampleur étonnante, avec seulement trois acteurs confrontés à une nature sauvage et souvent menaçante. Réflexion sur le courage, l'échec et le pardon, The Loneliest Planet est un film vibrant et organique, un voyage intérieur.
Et en parlant de grands espaces aux États-Unis, les Mustangs sont capturés par milliers par le Bureau of Land Management, l'organisation gouvernementale chargée du contrôle et de la gestion de la population de chevaux sauvages. Dans l'état du Nevada, ils sont envoyés dans une prison d'état où les détenus s'occupent de les apprivoiser. Katia Scher est allée à leur rencontre.
Northern Nevada Correctional Center, la prison d'État du Nevada près de Carlson, à l'entrée du désert. Il fait plus de 40 degrés, une vingtaine de prisonniers pour des centaines de Mustangs. Ces détenus s'occupent d'entraîner les chevaux, de les habituer à l'homme pour que ces Mustangs capturés puissent être vendus à des amateurs et à des ranchers américains. Tous ces hommes n'ont pas l'expérience des chevaux. Ils sont là sur base volontaire pour ne pas passer toutes leurs heures en cellule. Et aussi dangereux que soit ce travail payé moins de 5 dollars la journée, ils disent l'aimer. C'est ce qu'explique Alessandro, détenu pour trafic de drogue.
Ça m'apprend la patience. Avant, j'étais mauvais. J'essayais d'être le gros dur. Maintenant, je m'amuse avec mon cheval. Ça me donne l'impression d'être libre.
Herman, un autre détenu, confirme.
Quand on a un problème avec un cheval, on ne peut pas simplement tout laisser tomber et aller braquer un magasin. Il faut s'accrocher jusqu'au bout.
Hank, 62 ans, est entraîneur. C'est lui qui, depuis une dizaine d'années, supervise l'opération. Il connaît les chevaux qu'il choisit un peu comme ses hommes d'ailleurs.
Je cherche des gars honnêtes avant tout. C'est difficile pour moi de travailler avec des hommes qui vous mentent ou qui vous cachent des choses. Si c'est comme ça qu'ils mènent leur vie, ils auront des problèmes à entraîner les chevaux. Un cheval est fondamentalement honnête. Il saura que vous lui mentez et ne fera rien pour vous. Ce n'est pas pour tout le monde. J'ai vu des gars vraiment durs qui sont devenus de vrais dégonflés une fois ici.
Des chevaux sauvages habitués à la captivité par des hommes enfermés, ici personne n'est vraiment libre. Chad, le visage marqué par ses accidents de voiture causés en état d'ivresse, commente cette étrange relation.
Je leur dis tout le temps aux gars, ces chevaux sont comme nous, ils ont été capturés et enfermés ici, mais ils n'ont rien fait de mal, alors que nous, on a fait quelque chose et on mérite d'être ici. En même temps, ils ont presque une meilleure vie ici, parce que dans le désert, ils ne trouvent pas assez de nourriture, mais ce sont des animaux sauvages et ils devraient rester libres.
Un reportage signé Katia Scher. Retour en Suisse où le groupe E subventionne les municipalités pour les inciter à utiliser des réverbères moins gourmands en énergie. C'est le cas dans la commune fusionnée du Val de Travers qui compte plus de 3000 points lumineux qui consomment autant d'électricité qu'une centaine de ménages. Simon Corté a rencontré Yves Faton, responsable du dicastère des bâtiments et des travaux publics.
On se rend compte maintenant que nos anciennes ampoules à vapeur de mercure arrivent en bout de vie à partir de 2012. Il sera plus possible d'en obtenir. C'est une ancienne technologie qui, au niveau de sa fabrication, n'est pas très très économique, n'est pas très écologique non plus, et qui a un rendement lumineux qui est, qu'on a utilisé depuis de nombreuses années, mais qui peut être remplacé maintenant par de la vapeur de sodium, qui est au niveau écologique beaucoup plus intéressante. Au niveau de la rentabilité de l'ampoule, on arrive à diminuer par deux la puissance installée pour avoir à peu près une même qualité lumineuse, et c'est ce qu'on essaye de faire dans la commune de Val-de-Travers.
Un réverbère, ça coûte cher?
Si on ne parle pas de l'ensemble du réverbère, mais plus du point lumineux, un point lumineux maintenant se situe entre 900 et 1200 francs en fonction de ce que l'on veut au niveau esthétique, mais au niveau des puissances, donc c'est identique. Et si on passe sur de la LED, on passe quasiment du simple au double par rapport à un luminaire en vapeur de sodium.
Le long des routes de la région, une partie des lampadaires est propriété aussi de la Société électrique du Val de Travers, une société dirigée par Denis Pernoud.
Plus de la moitié de la consommation actuelle pourrait être diminuée facilement en gardant la même qualité d'éclairage. Et puis on pourrait réduire à partir d'une heure plus avancée pendant la nuit, depuis 23h à 5h du matin par exemple, ou avoir des systèmes radiocommandés qui éclaire faiblement, et puis lors du passage de piétons, cyclistes, etc., émet un flux plus important et dès qu'il a passé, revient dans un système ralenti.
Ça existe, ça?
Oui, tout à fait. Mes collègues d'Yverdon ont fait des essais, ils semblent conclure.
Un dossier signé Simon Corté. Une agence de placement fixe et temporaire pour les jeunes. C'est le concept de l'entreprise Cusmic, créée il y a 4 ans par deux anciens diplômés d'HEC. Et vous êtes l'un des fondateurs de cette agence intérim. Bonjour Michael Sen.
Bonjour David, merci de me recevoir.
Vous avez 26 ans, votre entreprise s'adresse aux étudiants et aux jeunes professionnels. Un job temporaire, c'est la bonne solution finalement quand on se lance comme ça sur le marché du travail?
Alors je dirais que c'est en tout cas une solution, et c'est vrai une bonne solution. L'idée c'est que c'est l'opportunité, disons, de mettre un pied dans une entreprise, de rencontrer ensuite, disons, de découvrir une culture, de se faire des contacts aussi dans cette entreprise, et puis possiblement d'accéder après éventuellement à un poste fixe.
Et qu'est-ce qui séduit les employeurs avec lesquels vous travaillez?
Alors disons que c'est une solution flexible. Donc pour eux, disons, c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des crises à peu près tous les 2-3 ans, avec disons des projets qui fluctuent assez rapidement. Il faut être très, très réactif, et donc ils ont plus tendance à s'organiser par projet, et ça leur permet d'avoir disons des gens qui ont une tête bien faite, qui peuvent apporter un soutien de façon ponctuelle pour des projets dans différents départements.
Et le profil des jeunes que vous recherchez?
Alors le profil, c'est vraiment, on travaille avec des jeunes un peu de tous les domaines, donc on couvre vraiment toutes les HES, toutes les universités. Il n'y a pas forcément un domaine en particulier ou des jeunes qui ont un cursus spécifique, mais ça dépend un peu disons des jobs qu'on peut proposer. Ouais.
Vous pouvez nous donner comme ça quelques exemples de missions que vous proposez?
Oui. Alors, par exemple, on a pu faire des missions. C'est vrai qu'on fait beaucoup, disons, dans les domaines qui sont dans l'industrie, qui sont représentés dans l'industrie suisse. Donc, par exemple, dans la finance ou dans le négoce. Alors, une mission, ça peut être, ça va, disons, de la mission administrative où il faut tout simplement faire du scanner pendant 2 mois, à la mission un peu plus spécifique où il faut travailler dans les opérations dans un back-office, dans une banque.
Vous avez vous-même été engagé pour des missions temporaires pendant vos études. C'est là que vous avez eu l'idée, finalement, de créer cette agence.
Alors, on faisait pas exactement des missions temporaires, mais c'était plus des projets de conseil, en fait, qu'on réalisait pour des entreprises à travers une association, en fait, pendant nos études. Après, c'est vrai qu'on avait fait pas mal aussi de petits boulots. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, justement, au niveau des entreprises, dans ce domaine-là, qu'elle ne savait pas toujours forcément comment approcher les écoles, les jeunes, et puis qu'il y avait un lien, un pont, disons, à faire entre les entreprises et les jeunes.
L'emploi à durée déterminée, il est pourtant souvent synonyme de précarité. Michaelsen, les jeunes diplômés rêvent plutôt d'une place fixe.
Alors, ça dépend. En fait, c'est vrai que, en général, on dit que l'idéal, c'est d'avoir un poste fixe, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeunes aussi qui aiment bien la solution du temporaire pour découvrir un métier, pour ensuite peut-être choisir, disons correctement, le poste fixe qu'ils voudront faire après, découvrir différentes expériences, comme aussi, par exemple, c'est un peu le but du stage, pour ensuite, disons, s'orienter dans la bonne direction. Il y avait notamment un des invités de l'émission du matin sur les périls jeunes qui témoignait là-dessus, et qui disait qu'il avait choisi de faire un temporaire pour justement découvrir un certain métier.
On sait que le marché de l'emploi se porte plutôt bien en Suisse, 2,6% de chômage. Ce serait plus difficile dans un pays, on va dire, on va prendre un extrême, hein, forcément, l'Espagne, 20% de demandeurs d'emploi.
Ouais. C'est-à-dire de faire du temporaire, en fait, c'est plus difficile. Je pense que la logique serait la même. En fait, à mon avis, c'est quand même un peu plus difficile, mais il y a énormément de temporaires en Espagne malgré tout. Donc c'est, à mon avis, c'est possible, disons, dans tous les pays. Les grandes entreprises de placement temporaire sont partout, et même si le chômage des jeunes est élevé, je pense que justement c'est une bonne solution pour qu'ils construisent leur CV et puis possiblement décrocher justement un poste fixe à la clé.
Et ça permet aussi aux entreprises de pouvoir tester le personnel sur une durée, on va dire, assez courte, et pour les embaucher peut-être définitivement après.
Exactement, c'est clair que ça, c'est aussi un avantage pour les entreprises, c'est qu'ils peuvent, en proposant ces missions, aussi découvrir justement des talents. Et puis très souvent, ce qui nous arrive, c'est qu'ils commencent par exemple par faire des missions très administratives, mais finalement ils sont embauchés pour quelque chose qui n'a absolument rien à voir dans un autre département, parce qu'ils ont un très bon profil, et ça nous arrive dans 20% des cas, disons, à peu près.
L'une des forces aussi de votre agence, c'est que vous disposez d'un vaste réseau d'employeurs potentiels. Comment est-ce que vous l'avez créé, ce réseau, sans dévoiler évidemment les secrets et la recette?
C'est clair. Non, en fait, donc, ça marche en partie déjà par réseau personnel, et puis après, c'est vrai qu'aussi, on contacte spontanément, disons, les entreprises où on sait qu'elles travaillent avec des jeunes ou qu'elles ont justement recours à ce type de service. Et puis, donc, on s'occupe justement d'aller chercher des jobs dans les entreprises qu'on va ensuite proposer aux jeunes, et c'est une grosse partie de notre travail, c'est clair.
Vous avez créé votre société il y a 4 ans. Les employeurs vous ont tout de suite pris au sérieux ou pas forcément ?
Alors, c'est vrai que quand on est jeune, au tout début, c'est pas forcément facile d'avoir une certaine crédibilité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est toujours bien entouré. On a été très rapidement sélectionné par Genilem, qui est un organisme qui soutient les startups en début de vie. On a été soutenu par la ville de Genève aussi à travers la Fondetech. On s'est entouré, on a aussi un business angel dans l'entreprise qui est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui nous a beaucoup appuyé. Et le fait d'avoir mis toute cette structure en place nous a permis d'avoir une certaine crédibilité auprès justement des clients qu'on a décrochés au début.
En un mot, c'est quoi vos projets d'avenir? Développer comme ça un peu votre réseau?
Alors, notre objectif, ça serait vraiment à long terme, de s'étendre dans toute la Suisse et d'être présent dans les 8 villes universitaires pour pouvoir vraiment proposer une solution globale, que ce soit aux entreprises ou aux jeunes.
Merci beaucoup, Michaelsen, d'être venu quelques minutes dans ce journal, cofondateur de l'entreprise Cusmic, invité par Célestine Perissinotto. Bon après-midi.
Merci
à vous.
Merci d'avoir aussi.
Un mot de la bourse pour vous dire qu'à la mi-journée, l'indice SMI est en hausse de 1,36% à 4930 points et il est temps de prendre des nouvelles du ciel. Avec Carole Dubuis.
L'après-midi sera bien ensoleillé sur le bassin lémanique et le Valais. Du côté du Jura, de la Joie et du nord du plateau, des passages de nuages élevés continueront de perturber le ciel et pourraient réduire quelque peu l'ensoleillement. Le mercure proposera un maximum de 24 degrés en pleine cet après-midi. Dans la vallée du Rhône, il se hissera jusqu'à 26. Le zéro se stabilisera à 4000 mètres. Sur le plateau, on sentira une tendance au vent de sud-ouest. En montagne, il soufflera modérément. Demain, la journée sera ensoleillée avec encore des passages de nuages
nuages élevés au nord de la Suisse romande. Les maxima danseront autour des 26 degrés en plaine, 28 en vallée. Samedi sera la journée estivale de la semaine avec un maximum de 28 degrés. Quelques nuages pourraient orner le ciel suivant les endroits. Dimanche, une perturbation contaminera toute la Suisse romande. Au programme, des averses et des orages, surtout en deuxième partie de journée.
La météo avec l'exposition Van Gogh, Bonnard, Valoton à la Fondation de l'Ermitage à Lausanne.
Fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci à la rédaction, à l'équipe technique d'avoir contribué à sa réalisation. Demain, nous recevrons Sylvie Wourman, nouvelle directrice de la Fondation de l'Ermitage. À 46 ans, cette historienne de l'art était la conservatrice des lieux avant d'en prendre la direction. Nous lui demanderons quels sont ses projets pour l'avenir de la Fondation. Ce journal sera rediffusé dans quelques secondes sur Espace 2. Vous pouvez l'écouter en tout temps sur notre site rsrinfo.ch. Il est 13h.